Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 4 mars 2025. En direct de Washington, Rosine Nezero. Pour commencer, les titres. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema s'est déclaré lundi candidat à la présidentielle du 12 avril. Quelques 64 Kenyans libérés des centres d'opération d'escroquerie en ligne sont coincés dans des conditions désastreuses à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit vouloir la fin de la guerre avec la Russie le plus vite possible, alors que Donald Trump a ordonné une pause de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Le président américain Donald Trump prononcera ce soir un discours devant le Congrès. Il devrait aborder plusieurs sujets, les plans politiques, sociaux et économiques. Et dans notre partie magazine, une mission de la CEDEAO envoyée en Guinée-Bissau pour résoudre un conflit électoral obligé de quitter le pays.
Même si la CEDEAO est dans une situation difficile actuelle, on sent que l'organisation essaie d'éviter que la Guinée-Bissau bascule dans une crise. Une crise qui pourrait accentuer la situation d'instabilité de la région.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le général Brice Oligui Nguema, homme fort du Gabon depuis le putsch de 2023, s'est déclaré lundi candidat à la présidentielle du 12 avril lors d'un discours à Libreville. Les détails avec Dili Diko.
Après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à la présidentielle du 12 avril 2025, a dit le général Brice Oligui Nguema devant une foule enthousiaste. Ma vision est celle d'un Gabon qui renaît de ses cendres. Cette vision n'est pas un rêve. Et si c'est un rêve pour vous, nous allons le réaliser. Elle est notre responsabilité commune, a-t-il dit. Ce militaire, qui a fêté hier ses 50 ans, avait promis de rendre le pouvoir aux civils au terme de la transition ouverte suite au coup d'août 2023. Mais le nouveau code électoral, voté fin janvier par le Parlement de transition, autorise les militaires et les magistrats à se présenter. Pour enregistrer sa candidature, l'ancien chef de la garde présidentielle, devenu président de la transition, doit effectuer une mise à disposition temporaire, précise le CTRI, Comité pour la transition démocratique. À la fin de la période électorale, il reprendra sa tenue militaire en attendant les résultats. S'il est élu, il devra faire une mise à disposition définitive et ne portera plus l'uniforme. S'il n'est pas élu, il retournera dans les casernes, selon la même source. Une vingtaine de prétendants ont déjà retiré leur dossier de candidature la semaine dernière, selon les médias locaux. La procédure d'inscription pour la présidentielle est ouverte jusqu'au 8 mars.
Kigali a déclaré lundi que Londres s'est tenu de lui payer le solde d'un accord controversé sur l'expulsion de migrants vers le Rwanda, abandonné par le Royaume-Uni l'année dernière sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays. Le Royaume-Uni avait demandé au Rwanda de renoncer discrètement au paiement sur la base de la confiance et de la bonne foi qui existe entre nos deux nations, a déclaré sur X la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. Cependant, le Royaume-Uni a trahi cette confiance en prenant des mesures punitives injustifiées pour contraindre le Rwanda à compromettre notre sécurité nationale, a-t-elle ajouté. Nous allons donc après ces fonds auxquels le Royaume-Uni était légalement tenu, a-t-elle conclu. Deux grands partis politiques d'opposition et des membres de la société civile ont créé lundi au Togo un nouveau regroupement contre la constitution adoptée en avril 2024 qui abolit l'élection du chef de l'État au suffrage universel et institue un régime parlementaire. L'Alliance nationale pour le changement et les forces démocratiques pour la République, appuyées par 10 organisations de la société civile, ont signé devant des journalistes une charte afin de lutter pour le retour à la constitution originelle du 14 octobre 1992. Les membres de ce nouveau regroupement ont appelé à un meeting le 23 mars à Lomé. Quelques 64 Kenyans libérés des centres d'opération d'escroquerie en ligne sont coincés dans des conditions désastreuses à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. C'est ce qu'a déclaré hier le gouvernement kényan. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
Les opérations d'escroquerie en ligne prospèrent aux frontières de la Birmanie. Depuis plusieurs années, des centres attirent des milliers de travailleurs étrangers grâce à des promesses de salaires élevés. mais ils sont ensuite retenus et forcés à travailler. Sous la pression de son allié chinois, la Birmanie a libéré environ 7000 travailleurs venus d'au moins 24 pays. Parmi eux, 64 Kenyans n'ont pas encore traversé la frontière vers la Thaïlande pour être rapatriés, selon un communiqué diffusé hier sur X par le département d'État kenyan pour les affaires de la diaspora. Les autorités thaïlandaises n'ont pas rouvert le poste aux frontières depuis le 12 février 2025, date à laquelle la première vague de 260 étrangers, dont 23 Kenyans, a été remise à l'armée royale thaïlandaise, ajoute le texte. Les travailleurs libérés attendent dans des conditions désastreuses à la frontière Birmanie-Thaïlande, manquant surtout d'accès à des soins de santé, à l'eau potable et à l'électricité, selon le gouvernement kenyan. Les autorités kenyanes ont assuré être en contact quotidien avec les victimes et en discussion avec les autorités thaïlandaises pour que la frontière leur soit rouverte pour des raisons humanitaires.
En Tunisie, des dizaines de personnes, dont de grands noms de l'opposition, des responsables de partis, avocats, figures des affaires et des médias, sont jugés à partir de mardi à Tunis, accusés d'avoir comploté contre la sûreté de l'État. Plusieurs des accusés ont été arrêtés lors d'un coup de filet dans les rangs de l'opposition en 2023. Les dirigeants arabes doivent discuter mardi au Caire d'un projet alternatif à celui de Donald Trump sur Gaza, qui prévoit un contrôle américain du territoire et de l'expulsion de sa population en pleine impasse de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. La réunion se tiendra ensuite à huis clos pour finaliser et approuver la déclaration finale, d'après la même source.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a martelé lundi vouloir la fin de la guerre avec la Russie le plus vite possible. Une position qui intervient en pleine tension avec son homologue américain Donald Trump, qui l'accuse de ne pas vouloir la paix. Mouamadou Oumfa.
Il est très important que nous essayions de rendre notre diplomatie vraiment substantielle pour mettre fin à cette guerre le plus vite possible, a écrit le président Zelensky sur le réseau social X. L'Ukraine, l'Europe, les États-Unis, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons rétablir la sécurité pour tous nos peuples, et c'est vraiment possible, a-t-il ajouté dans un autre message sur X. Réagissant à une déclaration faite dimanche à Londres, dans laquelle M. Zelensky estimait qu'un accord mettant fin à la guerre était très très lointain, Donald Trump l'a menacé de ne plus tolérer très longtemps cette position. Pour sa part, le Kremlin a appelé lundi à forcer le président ukrainien à faire la paix. Quelqu'un doit forcer Zelensky à changer d'avis. Il ne veut pas la paix. Quelqu'un doit le forcer à vouloir la paix, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un point de presse. Si les Européens le font, honneur et gloire à eux, a-t-il ajouté. Invité par le Premier ministre britannique Keir Starmer, 15 dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont affiché dimanche leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie. Le président Macron a évoqué l'idée dimanche d'une première trêve d'un mois, une initiative sur laquelle Londres a aussitôt souligné qu'il n'y avait pas d'accord à ce stade.
Par ailleurs, le président américain Donald Trump a ordonné lundi une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine en guerre contre la Russie, 3 jours après une réunion à la Maison-Blanche qui s'est mal terminée. Il s'agit essentiellement de l'aide militaire déjà approuvée sous l'ancienne administration de Joe Biden et très largement soldée, mais dont il reste encore des équipements et armes à livrer. Le président américain Donald Trump prononcera ce soir un discours devant le Congrès pour aborder plusieurs enjeux majeurs sur les plans politiques, sociaux et économiques. Ce discours sera également l'occasion pour Trump de répondre aux critiques de son administration et de défendre ses priorités pour son second mandat. Nani Talani.
La guerre en Ukraine devrait être un point central de son discours dans le cadre des initiatives de son administration visant à faciliter les négociations de paix. Le président pourrait également aborder la situation entre Israël et le Hamas ainsi que l'avenir de Gaza après avoir suggéré lors d'une conférence de presse en février que les États-Unis pourraient transformer Gaza en rivière du Moyen-Orient. Le chef de l'exécutif américain pourrait également expliquer les raisons pour lesquelles les États-Unis imposent des droits de douane à d'autres pays. L'un des sujets attendus est également la manière dont son gouvernement répond aux critiques concernant la réduction des dépenses publiques et la diminution de la taille de la main-d'œuvre fédérale. La sénatrice Elissa Slotkin, ancienne analyste de la CIA, a été choisie pour représenter les démocrates et présenter leur point de vue sur le discours de Trump.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La Libye a annoncé son premier appel d'offres pour l'exploration pétrolière depuis 17 ans dans l'espoir de relancer son secteur énergétique, a annoncé la Société pétrolière nationale. Tripoli cherche à attirer des investissements pour augmenter sa production à 1,6 million de barils par jour, avec un besoin estimé entre 3 et 4 milliards de dollars. L'Égypte et la Commission européenne ont signé un accord de financement de 93,9 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire du pays. Soutenu par la Banque européenne d'investissement, ce financement vise à améliorer le stockage des céréales et l'infrastructure logistique, notamment en permettant à l'autorité générale pour les produits d'approvisionnement de mieux importer et stocker le blé. L'initiative bénéficie également du soutien de l'Union européenne et de la Banque mondiale. Pour terminer, le président américain Donald Trump menace d'imposer dès ce mardi des droits de douane de 25% sur les produits importés du Canada et du Mexique. Il doit aussi relever les droits de douane sur les importations chinoises qu'il a déjà augmentées de 10% début février. D'autres taxes sur les importations américaines sont dans les tuyaux, notamment sur l'acier et l'aluminium.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Rigobert Song a signé son contrat comme sélectionneur de la République centrafricaine.
Oui, nommé en janvier, le nouveau sélectionneur des Fauves du Bazoubangui a signé son contrat avec le ministère en charge des sports. Malgré la contestation de la fédération, pour notre consultant Amin Birouk, la question de l'ingérence gouvernementale se pose.
Aujourd'hui, nous avons deux parties. Le ministère de tutelle qui a décidé de s'entêter à faire signer Rigobert Song et la fédération qui refuse de céder et qui ratifie et loge Yabi Sinza comme entraîneur, comme sélectionneur national. Et la question qui se pose, où commence l'ingérence gouvernementale, où s'arrête-t-elle? Est-ce que la FIFA, à la lumière peut-être d'une plainte de la Fédération centrafricaine de football, ne va pas vouloir fourrer son nez dans les affaires du football centrafricain, quitte à disqualifier la Centrafrique? Je rappelle que la Centrafrique est qualifiée pour la CAN 17, qu'elle est en lice dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et qu'elle sera en lice prochainement pour les éliminatoires de la CAN 2027. Dans ce même cas d'espèce, on a eu différents traitements à géométrie variable. On a vu le traitement à la Camerounaise, où finalement on arrive à une sorte de modus vivendi entre la fédération présidée par Samuel Eto'o et le ministère de tutelle. Et aujourd'hui, nous voyons que du côté de la République centrafricaine, la fédération n'est pas du tout au courant et qu'elle s'estime en mesure de défendre son bon droit en maintenant le sélectionneur qu'elle a choisi.
Amin Birouk, consultant sportif pour Jules Valentin Ngoué, en acceptant le challenge centrafricain, Rigobert Song veut se relancer.
Si on regarde le contrat qui est proposé à Song, qui est de 4 millions et demi par mois, Song en fait a besoin de rebondir à l'international, mais ce n'est pas tellement le contrat en tant que tel et sur le plan lucratif qui l'intéresse. Et si on se penche sur le côté sportif, on dirait que la carte de visite de Song n'est pas si mauvaise que cela. Il a qualifié le Cameroun de la Coupe du Monde. Il a ramené 4 points d'un groupe qui était difficile avec le premier du haut classement mondial qui était le Brésil à ce moment, la Serbie, la Suisse qui était quart de finaliste de l'Euro. Pendant la CAN ivoirienne, son équipe a été complètement décimée par les blessures, mais il s'est fait éliminer en 8e de finale comme Aliou Cissé. Donc je crois qu'il y a plus de dramaturgie autour de cette histoire que la facette sportive.
Jules Valentin Ngoué, consultant sportif.
Benny McCarthy, nommé sélectionneur du Kenya.
Oui, le Kenya a confirmé hier que l'ancien attaquant sud-africain est le nouveau sélectionneur de son équipe nationale pour une durée de 2 ans. Il s'agit du premier poste d'entraîneur au niveau international pour Benny McCarthy, après des passages à Cape Town City, à AmaZulu, mais aussi en tant qu'assistant à Manchester United sous Eric Ten Hag. Benny McCarthy est la personne idéale pour diriger notre équipe nationale, a déclaré Hussein Mohamed, président de la Fédération kényane de football. Meilleur buteur de l'histoire des Bafana Bafana, McCarthy remplace le sélectionneur turc Engin Firat, qui a démissionné en décembre après la non-qualification du Kenya pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Roselyne Molenzero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Une mission de la CEDEAO envoyée en Guinée-Bissau pour résoudre un conflit électoral a quitté le pays. La délégation du bloc régional a déclaré dans un communiqué que sa mission avait quitté le pays samedi après que le président Umaro Sissoko Embalo a menacé de l'expulser. La mission a été déployée du 21 au 28 février avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel afin d'aider à trouver un consensus sur la date de l'élection présidentielle. Pour une analyse, Alexandrine Holognon a joint Paulin Maurice Toupane, chercheur principal au Bureau régional de l'Institut d'études de sécurité à Dakar.
Alors, je pense que le président de la République ne voulait pas que la délégation de la CEDEAO puisse rencontrer les principaux partis de l'opposition qui se sont constitués en deux principales coalitions, PAI-Teranka et la coalition dirigée par le PIGC et API dirigée par Nounounabian. Bien sûr, il y a eu d'autres coalitions de partis politiques, de mouvements sociaux et de partis politiques tels que le Front Populaire. Mais fondamentalement, le président de la République ne voulait pas cette rencontre entre la mission et les partis politiques qui réclament la démission du président de la République en tant que président en exercice de la Guinée-Bissau parce que son mandat est fini le 27 février 2025.
On avait compris que la mission a débuté en l'absence du président Embalo Sissoko qui était en Russie lorsque la mission est arrivée en Guinée-Bissau et qui a rencontré certains partis de l'opposition. Comment ça fonctionne? Pour qu'une mission de la CEDEAO puisse se rendre dans un pays, il faut l'aval des autorités de ce pays au préalable, n'est-ce pas?
Bien sûr, il faut l'aval des autorités de ce pays et la décision de l'envoi de cette mission de la CEDEAO a été décidée lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Abuja au mois de décembre 2024. M. Embalo était au courant de la venue de cette délégation et avait bien sûr accepté la venue de cette délégation. La divergence vient du fait que les autorités bissau-guinéennes qui sont dans une logique de bien sûr conservation du pouvoir ne voulaient pas en fait que la délégation rencontre cette opposition qui conteste Embalo comme étant le président actuel de la Guinée-Bissau.
Un nouveau revers pour la CEDEAO qui perd de plus en plus de la crédibilité face aux États de la sous-région.
Embalo est un président, il a été président en exercice de la CEDEAO il n'y a pas longtemps, qui met la pression sur une mission de la CEDEAO qui vient essayer de trouver une solution à la crise actuelle dans son pays. Et c'est une surprise en fait pour moi, c'est une surprise. Et donc je pense que même si la CEDEAO est dans une situation difficile actuelle, on sent que l'organisation essaie d'éviter que la Guinée-Bissau bascule dans une crise. Une crise qui pourrait accentuer la situation d'instabilité de la région. Si on sait que le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà quitté la CEDEAO, la Guinée est sous transition et il y a des pays qui sont dans une situation de fragilité actuellement telle que la Guinée-Bissau. Donc l'objectif de la CEDEAO étant d'éviter que la Guinée-Bissau plonge dans une autre crise institutionnelle. C'est pourquoi la mission a été envoyée pour essayer de trouver une solution à la crise.
Et avec le départ de la mission de la CEDEAO et l'absence de médiation, comment voyez-vous l'issue de cette situation en Guinée-Bissau?
Alors, je pense que la CEDEAO va continuer ses efforts de médiation. La mission a promis de soumettre le rapport à la commission de la CEDEAO. Je pense qu'un dialogue entre les acteurs politiques pourrait permettre de trouver une solution. Il ne faut surtout pas que la CEDEAO, malgré le renvoi de la mission par le président de la République, il ne faut surtout pas que la CEDEAO baisse les bras.
C'était Paulin Maurice Toupane, chercheur principal au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, les autorités des États de Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi, à prédominance musulmane dans le nord du pays, ont ordonné la fermeture des écoles pendant le Ramadan. La fermeture des écoles dans les zones concernées la semaine dernière a suscité des critiques de la part de l'Association nationale des étudiants nigérians et de l'Association chrétienne du Nigeria, qui a menacé d'intenter une action en justice contre les gouvernements des quatre États. Pour une analyse, Yakuba Ouedraogo a joint à Lagos Akambi Ilupeju, professeur titulaire de sociolinguistique et doyen de la faculté des lettres de l'Université de Lagos.
Lorsqu'il s'agit des éléments fédérés comme les États, le gouvernement prend des décisions sur ce qui concerne la structure de l'État concerné. Ça n'a rien à faire avec la décision fédérale. Sauf si ces écoles sont des écoles fédérales. Si ce sont les écoles qui appartiennent à l'État, le gouverneur peut légiférer sur sa nature. L'ouverture, les congés, c'est comme ça.
Il faudrait retenir que ce ne sont pas des écoles fédérales, donc.
Ça ne concerne que les États qui les ont déclarées et ça ne concerne pas les écoles qui appartiennent à la fédération, c'est-à-dire au gouvernement fédéral. Donc le président n'a pas d'autorité ni l'Assemblée nationale, sauf les assemblées étatiques.
La fermeture des écoles dans les zones concernées a suscité des critiques de la part notamment de l'Association nationale des étudiants nigériens et de l'Association chrétienne du Nigeria qui menace d'intenter une action en justice contre les gouvernements de ces quatre États-là. Est-ce que cela peut prospérer?
La Cour va prendre la décision concernant l'autonomie de chaque État en ce qui concerne la gérance des affaires intérieures, qui concerne seulement l'État. Vous savez, si c'était la police, les militaires, ainsi de suite, c'est ça, l'État n'a pas de pouvoir sur eux. Ça sera le gouvernement fédéral. Ainsi que les écoles comme les universités qui appartiennent au gouvernement fédéral et aussi à des écoles d'unité qui sont partout dans le pays, qui ne concernent que la gérance du ministre de l'Éducation nationale. Vous savez, le Nigeria, on peut protester contre n'importe quoi, mais il y a la Cour qui décide.
On sait que les États concernés sont Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi. Est-ce que ce sont des mesures qui sont habituelles dans ces zones-là ou c'est la première fois?
Vous savez, il y a des gens qui traduisent tout en politique. Quand il s'agit de la politique, il faut un peu freiner sa décision ou ses critiques. Ils le font peut-être parce que le gouvernement fédéral touche aux attentats qui sont menés dans ces États et que, des fois, les autochtones sont mêlés. Alors, ils cherchent surtout à tout prix une situation comme ce dont on parle pour soulever des émeutes. Si c'était les parents d'élèves qui protestaient, c'est on va comprendre. Mais si c'est l'association des chrétiens et les étudiants universitaires qui veulent protester, ça n'a pas de sens chez moi. Au fur et à mesure que les parents sont d'accord avec la décision de ce gouverneur, personne ne peut faire quoi que ce soit. Puisque normalement, ce dont les gens ne parlent pas, les écoles dans le nord du Nigeria sont gratuites par rapport aux écoles qui se trouvent dans le sud. C'est le gouvernement qui subventionne dans la majorité le financement de l'école dans les États que vous avez nommés. Alors s'il décide que ses employés restent à la maison pendant un mois, c'est sa décision, mais il va les payer leur salaire. Alors cela ne va pas empêcher que les étudiants, selon moi, qui sont en année finale, qui vont passer un concours international ou un concours national, n'arrivent pas à l'école. Mais les gens veulent tirer de la politique dans tout. Nous sommes dans un pays fédéral. Chaque État décide de ce qu'il veut.
Akambi Ilupejo, professeur titulaire de sociolinguistique et doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de Lagos.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La nécessité de mettre fin aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, les droits de douane imposés à d'autres pays et la réduction des effectifs du gouvernement fédéral américain, ce sont là quelques-uns des sujets que le président Donald Trump devrait mettre en avant lorsqu'il prononcera ce soir le premier discours de son second mandat devant le Congrès. Véronica Balderas Iglesias de la VOA nous en parle. Le récit est de Nani Talani.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Comme il l'avait fait en 2017, le président américain Donald Trump devait s'adresser mardi à une session conjointe du Congrès. La guerre entre la Russie et l'Ukraine devrait occuper une place importante dans le discours de M. Trump, alors que son administration déploie des efforts pour faciliter les négociations de paix entre les parties en conflit. Donald Trump.
Je cherche la paix. Nous ne cherchons pas à entrer dans une guerre de 10 ans et s'amuser. Nous voulons la paix.
Le dirigeant américain pourrait également informer le Congrès de sa position sur la guerre entre Israël et le Hamas et sur l'avenir de Gaza. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 4 février, Donald Trump a suggéré que les États-Unis transforment Gaza en rivière du Moyen-Orient.
Les États-Unis possédant ce morceau de terre, le développant et créant des milliers d'emplois avec quelque chose qui sera magnifique.
Les analystes s'attendent également, lors de son discours au Capitole, à ce que M. Trump explique la raison pour laquelle les États-Unis imposent des droits de douane à d'autres pays. Shannon Bor O'Brien est professeur à l'Université du Texas à Austin.
Je crois qu'il pense que s'il impose des droits de douane, cela provoquera une hausse des prix qui obligera les fabricants à revenir aux États-Unis pour éviter ces droits de douane.
M. Trump pourrait également répondre aux critiques que son administration a reçues sur la rapidité et l'ampleur de ses efforts pour réduire les dépenses gouvernementales, diminuer la fraude et le gaspillage et réduire le nombre d'employés fédéraux. L'analyste Shannon Bor O'Brien.
Je pense qu'il va en parler comme d'une mesure de réduction des coûts. Je pense qu'il va dire à quel point c'est une bonne chose.
La sénatrice américaine Elissa Slotkin, ancienne analyste de la CIA, a été choisie pour donner la réplique démocrate au discours du président Trump. L'universitaire O'Brien pense que les Américains suivront probablement les remarques de la sénatrice Slotkin et le discours complet de Trump, principalement sur les sites web ou les plateformes de médias sociaux mardi soir. D'autres liront les résumés des points forts le lendemain.
Une étude récente révèle qu'un Américain sur 100 vend sa maison après l'installation d'un voisin ayant des opinions politiques opposées. Mais une nouvelle application immobilière permet désormais aux acheteurs d'en savoir plus sur l'orientation politique de leur futur voisin avant de réaliser l'un des achats les plus importants de leur vie. Dora Mekouar nous en dit plus dans ce récit de John Lyndon.
La plupart des acheteurs immobiliers font la connaissance de leurs voisins après leur aménagement. Mais une nouvelle application immobilière permet aux acheteurs de découvrir l'orientation politique de leurs futurs voisins avant de finaliser leur achat. Darian Kelly est cofondateur de C, une plateforme immobilière.
L'objectif d'OC est de démocratiser l'accès aux données pour les acheteurs dans leur recherche de logement.
OC, une nouvelle application immobilière actuellement testée à New York et en Floride avec l'intention de se déployer à l'échelle nationale, fournit ces informations à partir de données publiques. À terme, les acheteurs pourront vérifier si leur futur voisin est enregistré comme démocrate ou républicain. Darian Kelly, cofondateur d'EC.
Il s'agit de comprendre que lorsque je déménage ici, ce sont les personnes que je pourrais inviter à dîner, les gens avec qui je vais élever mon enfant.
Ben McCartney est professeur assistant de commerce à l'Université de Virginie.
Les gens semblent se soucier de l'identité politique de leur nouveau voisin, donc cela ne me surprend pas qu'une entreprise propose désormais cette information aux acheteurs potentiels.
Ben McCartney a co-rédigé une étude montrant que les propriétaires sont légèrement plus susceptibles de déménager si les opinions politiques d'un nouveau voisin diffèrent des leurs, plutôt que si ces derniers partagent leur affiliation politique.
La polarisation politique ne se limite pas aux réseaux sociaux, elle influence également des décisions économiques réelles.
L'étude a révélé qu'un déménagement sur 100 est motivé par des raisons politiques. Les personnes les plus susceptibles de déménager pour cette raison sont celles qui sont moins engagées en politique, selon McCartney.
Elles ne veulent pas que la politique fasse partie de leur quotidien, mais lorsqu'un nouveau voisin s'installe, très vocal politiquement et affilié au parti opposé, c'est là que les tensions apparaissent le plus fortement.
Mais ce type d'application risque-t-il d'accentuer la division politique aux États-Unis? Le cofondateur de C, Kelly, rejette cette idée.
Nous donnons simplement aux gens les données et les informations pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Ces données existent déjà.
Et l'objectif affiché de C est de rendre ces informations publiques plus accessibles.
Vous
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.